Bonsoir. Le monde a célébré ce lundi 2 novembre la journée internationale pour la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes. À cette occasion, l'ONG Journalistes en danger a publié son rapport annuel 2015 dans lequel elle relève 72 cas d'atteinte à la liberté de la presse en RDC. Et dans une lettre ouverte, j'ai des demandes au ministre de la Justice, notamment un moratoire sur l'arrestation des journalistes. Quelle lecture faire de la profession des journalistes en RDC? Nous en parlons avec Chivis Chivwadi, il est secrétaire général de l'ONG Journalistes en danger, GED en sigle. Bonsoir, monsieur Chivis Chivwadi.
Bonsoir.
Dieudonné Mwenze, il est député national honoraire, cadre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir, honorable Dieudonné Mwenze.
Bonsoir, monsieur Guimaté.
Et professeur Rigobert Munkeni, il est professeur au département de l'information dans plusieurs universités du pays. Bonsoir, professeur Rigobert Munkeni.
Bonsoir, monsieur le général.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Kaki. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokaki.net.
Journalistes en danger dénoncent les pressions et censures exercées sur les journalistes et les médias cette année en RDC. Dénonciation faite dans le rapport annuel 2015 sur la situation de l'exercice de la liberté de la presse dans les pays. Ce rapport est intitulé « Liberté d'expression et élections en RDC 2016, l'information sous haute surveillance à l'occasion de la journée internationale pour la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes ». Mary Franklin Luchaka nous fait l'économie de ce rapport.
C'est un rapport de plus de 50 pages qui répertorie dans les moindres détails différentes atteintes des droits des journalistes. Plus de 70 cas d'atteinte à la liberté de la presse ont été enregistrés entre le 2 novembre 2014 et le 1er novembre 2015. Dans ces atteintes, GED fait référence au cas des 2 journalistes assassinés, 10 journalistes incarcérés, 12 autres interpellés, 8 agressés, maltraités ou torturés, 13 journalistes harcelés ou menacés, 3 autres qui ont connu des pressions administratives, judiciaire ou économique, ainsi que 25 entraves à la libre circulation nationale ou internationale de l'information. S'il faut faire un tableau de toutes ces entraves à la liberté de la presse par province, c'est la ville-province de Kinshasa qui bat le record avec 29 cas, suivi du Nord Kivu avec 15 cas, et les provinces de la Tshopo, Tshuapa, Ituri, le Haut-Katanga, le Lualaba, le Sankuru et le Kasaï central qui ferment la marche avec chacune un cas d'atteinte à la liberté de la presse. Toujours dans ce rapport, GED constate aussi que la presse congolaise est sous pression, surtout au moment où s'annoncent les échéances politiques majeures devant conduire à terme à la fin du deuxième et dernier mandat de l'actuel président de la République, l'instrumentalisation des médias publics et le non-accès par l'opposition à ces derniers. Tout ce tableau fait dire à GED qu'en 2016, l'information risque d'être sous haute surveillance. Par ailleurs, dans une lettre ouverte dont le contenu a été rendu public ce même lundi 2 novembre, GED demande au ministre de la Justice, entre autres, un moratoire sur l'arrestation des journalistes en attendant que soit votée au Parlement une loi sur la dépénalisation du délit de presse.
Merci, Barry Franklin Luchaka, monsieur Chivis Chivwadi, secrétaire général de l'ONG Journalistes en danger. Le Monde a célébré ce lundi 2 novembre la journée internationale pour la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes. Comment avez-vous réagi lorsqu'on avait institué cette journée?
Bien, merci beaucoup pour votre invitation et pour votre question. D'abord, je voudrais vous faire remarquer que depuis sa création, j'ai toujours présenté ces rapports annuels le 19 décembre de chaque année, depuis 15-16 ans. C'est à cette date-là que nous publions notre rapport annuel sur l'état de la liberté de la presse dans notre pays.
Là, c'est au mois de novembre maintenant.
Au mois de décembre, parce que nous pensions que notre travail, parce que le mois de décembre, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre, et notre travail de plaidoyer et de lobbying pour la liberté de la presse se fonde sur l'article 19 de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais depuis 2 ans, nous avons décidé de publier notre rapport à la date du 2 novembre, qui est la date consacrée pour la lutte contre l'impunité des crimes contre les journalistes, parce que au fil des années, nous avons effectivement constaté que un des gangrènes des problèmes de la liberté de la presse dans notre pays, c'est la question effectivement de l'impunité. Donc nous pensons que c'est une date qui nous permet effectivement, en publiant notre rapport sur la situation réelle, de pouvoir interpeller les autorités, de pouvoir attirer l'attention de l'opinion sur ce fléau de l'impunité qui ronge et qui gangrène la liberté de la presse dans notre pays.
Et selon les Nations Unies, plus de 700 journalistes ont été tués au cours de la dernière décennie, et sur 10 crimes commis contre les professionnels des médias pendant cette période, un seul a abouti à une condamnation. Comment vous comprenez cela?
Eh bien, écoutez, c'est tout à fait clair, et je vais simplement revenir à ce qui concerne la RDC. Au cours de la dernière décennie, nous avons enregistré au moins 12 cas d'assassinat des journalistes pour leur travail ou en raison de leur qualité de journaliste. Et je vous dis très clairement que au moins seulement un cas sur trois a connu un début de procès. Généralement, comme nous disons, ce sont de procès, des parodies de procès qui se fondent sur des enquêtes préalables qui sont sciemment bâclées et qui brouillent les pistes et qui ne nous permettent pas de connaître la vérité de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, comme je vous dis, sur les 12 cas d'assassinat que nous avons connus, à peine 3 ou 4 ont connu des procès qui ont abouti à des condamnations de personnes dont on peut au moins douter qu'ils soient eux les et dont on ne connaît pas effectivement le mobile des assassinats de ces journalistes. Et donc pour les autres, au moins donc pour les six ou sept autres, il n'y a même pas, jamais eu un début de procès. Et comme nous avons l'habitude de dire, vous savez, il y a plusieurs façons d'assurer l'impunité des crimes. C'est soit de ne rien faire du tout quand il y a des cas d'assassinat, on ne fait rien, il n'y a même pas la moindre enquête, soit de réaliser ou d'organiser des procès qui sont bâclés, comme je l'ai dit, qui se fondent sur des enquêtes préliminaires qui n'éclairent pas ou qui n'essaient pas d'aborder toutes les pistes possibles pour connaître la vérité, et donc c'est juste pour la consommation de l'opinion.
Voilà, vous évoquez la RDC où en 10 ans, il y a au moins 12 journalistes qui ont été tués, et des procès ont été organisés, et vous dites un seul cas sur 3 ont connu un procès, mais qui n'a pas abouti. L'institution d'une telle journée, la journée pour l'impunité des crimes contre les journalistes, suffit-elle pour corriger, n'est-ce pas, ces problèmes?
Absolument, parce que je pense qu'aujourd'hui, comme vous avez dit, le nombre de journalistes assassinés à travers le monde est très élevé, et le nombre de cas de actes de violence que subissent les journalistes, y compris dans notre pays, est très élevé. Je vais vous dire, en 17 ans, nous avons publié ce rapport, c'est le 17e, et en 17 ans, nous avons comptabilisé, nous avons documenté plus de 1800 cas d'attaque directe ou indirecte contre les médias. Si vous faites une moyenne, vous arrivez chaque année au moins à une centaine d'attaques qui sont dirigées contre les médias.
Là, c'est
par
RDC.
Des personnes. RDC, je parle de la RDC. Par des personnes identifiables, des gens sur lesquels on peut mettre de noms et leurs fonctions, mais des gens qui n'ont jamais été inquiétés parce que justement, ils sont dans le pouvoir et ils sont dans les organes du pouvoir.
Voilà, à cette occasion, j'aide votre ONG à répertorier à travers son rapport annuel 2015 72 cas d'atteinte à la liberté de la presse en RDC pendant cette année 2015. Comment vous analysez ces chiffres, 72 cas?
Eh bien écoutez, c'est un rapport qui est publié dans un contexte particulier, un contexte électoral, où nous sommes depuis le début de l'année, dans un processus qui est électoral, qui est tendu et qui est marqué par un certain nombre d'actes d'intolérance et même de violence. On l'a vu depuis le début de l'année, au mois de janvier, lors de ce qu'on a appelé les folles journées des 19 et 20 janvier, en marge de débats sur la loi électorale. Il y a eu des manifestations de l'opposition. Et vous avez vu qu'en réaction, n'est-ce pas, aux manifestations de l'opposition, le gouvernement a pris des mesures graves de pouvoir interdire, suspendre Internet, couper l'accès aux réseaux sociaux et interdire un certain nombre de médias proches de l'opposition pendant plusieurs semaines. C'est une répression grave. C'est une situation grave qui a été un coup dur contre la liberté de la presse et contre la liberté d'expression et qui a en fait montré l'état d'esprit des autorités congolaises par rapport à cette question de la liberté de la presse. Et même j'ai entendu le ministre dire si c'était à refaire, on n'hésiterait pas à le faire. Donc là, ça veut dire que c'est les journalistes, de manière générale, dans notre pays, évoluent dans ce contexte qui est un contexte hostile sur le plan politique, hostile sur le plan sécuritaire et même hostile sur le plan juridique, parce que les textes même qui organisent ce métier comportent un certain nombre de dispositions qui ne permettent pas aux journalistes de faire son travail en toute liberté, en toute indépendance et en toute sécurité.
Et donc le contexte électoral n'est pas un bon contexte pour le travail d'un journaliste en RDC.
Mais nous avons fait même des comparaisons pour voir que toutes les années électorales ont été toujours des années non seulement des tensions plus ou moins politiques, mais des moments de grands risques pour les journalistes à cause justement du fait que c'est des périodes où on remarque beaucoup d'actes de violence et bien d'intolérance qui n'épargnent pas les journalistes et les médias.
Et pourquoi? Parce que l'homme politique ne veut pas que les journalistes puissent donner la bonne information?
Mais je dis que c'est un problème d'intolérance. Vous savez, chaque fois ici, qu'on prenne les élections de 2006, qu'on prenne les élections de 2011, ce sont des élections qui se déroulent toujours dans une très grande, dans une vive tension politique. On peut se poser des questions, pourquoi des élections chez nous deviennent vraiment pratiquement comme des moments de guerre civile dans notre pays. Alors dans ce contexte-là, vous voyez bien que des journalistes deviennent souvent des empêcheurs de tourner rond. Nous avons ici des médias qui sont catégorisés comme étant des médias proches de l'opposition et d'autres du pouvoir.
Merci.
Donc cette bipolarisation sur le politique a des répercussions aussi sur les journalistes et sur les médias.
Merci Dieudonné Moïse, député national honoraire, cadre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Le Monde a célébré hier lundi 2 novembre la deuxième journée internationale pour la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes. Comment vous réagissez face à l'institution d'une telle journée?
Merci M. Guy pour l'invitation. Je voudrais tout d'abord saluer tous vos invités qui sont dans les studios et beaucoup plus principalement M. Thieu Tshuwadi qui est le président de JED. J'ai suivi hier le rapport annuel de 2015 publié par le JED, c'est-à-dire le journaliste en danger. Et j'ai également suivi avec beaucoup d'intérêt les statistiques données dans ce rapport, à peu près 72 cas d'atteinte à la liberté de presse. Mais je crois que je ne peux qu'apprécier d'abord le contenu de ce rapport et encourager le travail que fait GED pour pouvoir préserver la liberté de presse pour les journalistes. Mais je voudrais également confirmer et apaiser tous les journalistes, vos confrères, que le gouvernement de la République qui a été mis sur pied depuis un temps est tellement soucié de liberté de la presse et de tous les journalistes en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République fait un effort pour que les prescrits de la loi et même les articles 23 et 24 soient observés. Vous vous rappellerez que la constitution de la République du 18 février 2006, en son article 23, garantit bien la liberté de presse, d'expression plutôt à tout Congolais. Et quand vous poursuivez dans son alinéa 2 du même article 23, il est précisé que le droit implique, je parle bien du droit à la liberté d'expression, ça implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Et l'article 24 précise également que toute personne a droit à l'information. Et la liberté de presse, la liberté d'information et d'émission par la radio ou la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garantis sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. Il y a même une loi qui fixe les modalités d'exercice de ces libertés. Donc je voudrais simplement dire que le gouvernement de la République est très soucieux de pouvoir garantir les libertés, les différentes libertés de presse et même d'opinion. Mais vous devez vous rappeler que le métier de journaliste est un métier tout à fait délicat, certes, mais je crois que la corporation a aussi un travail à faire par rapport à cette prestation. Puisque dans ce métier, eux-mêmes d'ailleurs, ils ont des termes qu'ils consacrent en disant qu'il y a, il n'y a pas simplement des journalistes, il y a aussi des moutons noirs dans la corporation.
Oui,
donc c'est un travail. C'est un travail, je disais que c'est un travail qui nécessite que les uns et les autres puissent accepter de pouvoir surveiller la manière dont ce métier ou cette profession s'accomplit, de manière à ce que nous puissions respecter les prescrits de la loi et de la Constitution, puisque quand vous, comme je disais, dans la Constitution, on prévoit toujours ces libertés, mais subordonnées par l'ordre public, puisqu'il faut toujours respecter l'ordre public, mais aussi respecter les bonnes mœurs. Donc c'est vous dire que nous acceptons que le 2 novembre de chaque année, on puisse parler de ce qui a été respecté ou pas respecté en matière de liberté de presse, mais aussi que l'on puisse savoir que le gouvernement a une tâche délicate, c'est-à-dire d'un côté d'assurer cette liberté de presse aux journalistes, mais de l'autre côté de maintenir l'ordre public. Et à ce moment-là, vous comprenez que quand vous voulez mettre les deux ensemble, il n'y a pas toujours généralement bon ménage. Donc ce qui fait qu'à un certain moment, il y a des dérapages, mais nous n'allons pas les encourager. Nous pensons que les efforts sont en train d'être menés. Et sur le plan de la justice, il y a beaucoup de réformes
dans
la démocratie du Congo. Mais nous aimerions aussi que dans cette corporation, beaucoup de choses aussi puissent se faire pour qu'on puisse décourager ceux qui ne sont pas réellement des journalistes, ceux qui ne veulent pas faire la profession de manière convenable.
Monsieur
Duvoy, qui est avec vous sur le studio, il peut se rappeler bien qu'il y a 20 ans, il y a 25 ans, je crois que les dangers que les journalistes courent aujourd'hui étaient plus grands que par rapport à ce jour. C'est les constituants sous le régime de Joseph Kabila en 2006 qui a garanti cette liberté d'expression. Et aujourd'hui, vous pouvez vous rappeler des nombres de presse ou des maisons de presse qui existaient il y a 25 ans, 30 ans. Il y en avait peut-être deux ou trois. Aujourd'hui, c'est dans toute la ville où vous avez les maisons de presse partout, audiovisuelles, même de la presse écrite. Donc, c'est vous dire que les efforts sont en train d'être menés. Les statistiques qu'on donne aujourd'hui sont pour 2015, mais si on pouvait les comparer aux statistiques d'il y a 30 ans, c'est-à-dire de 1980 ou de 1990, on se rendrait vite compte qu'il y a une forte amélioration.
Oui, honorable, vous dites que le gouvernement est soucié, n'est-ce pas, de la liberté de la presse, de tous les journalistes à travers le pays. Vous avez suivi, mais c'est ce qu'il voit de l'ONG GED qui a rappelé qu'en 10 ans, on a perdu 12 journalistes, et un seul procès sur trois a abouti, plutôt a été organisé et ça n'a pas satisfait l'opinion. Comment vous vous expliquez ces faits-là, l'impunité des crimes contre le journaliste en RDC?
Non, je crois que nous n'allons pas considérer que l'impunité est érigée en système en République démocratique du Congo. Non, je ne crois pas comme ça. Mais je sais qu'il y a eu réellement des enquêtes qui ont été ouvertes par rapport à tel cas ou tel autre cas d'assassinat. Mais je sais aussi que certains auteurs ou pressentis auteurs ont été poursuivis et peut-être même inquiétés ou sanctionnés. Bon, ça peut ne pas rencontrer la volonté des membres des GED. Peut-être qu'ils espéraient avoir des sanctions beaucoup plus fortes, mais je crois que ce qui est important, c'est le fait que le gouvernement puisse déjà manifester la volonté de mettre fin à cette impunité. Hein, je peux vous rassurer, je l'ai dit bien, je sais de quoi je parle, je suis la majorité présidentielle de laquelle est issu ce gouvernement qui gère la République aujourd'hui. Donc je peux rassurer vos confrères journalistes que le gouvernement est réellement soucié de garantir cette liberté de presse.
Honorable,
mais
rapidement,
ce que j'ai dit, je crois que c'est aussi important, c'est simplement dire que l'article 24 prévoit bien qu'il y ait une loi qui fixe les modalités d'exercice de cette liberté d'espèce. Et cette loi existe depuis la première mandature de Joseph Kabila, je crois entre 2006 et 2011.
Non, elle existe depuis 1996.
Quoi qu'ils doivent aussi respecter quand ils veulent assumer leurs fonctions ou assurer leurs fonctions,
honorable,
de pouvoir respecter aussi le contenu de cette loi. Parce
merci,
que généralement,
merci,
ce qui manque, qui fait qu'à un certain moment, ça pose problème et que les journalistes, de temps en temps, tombent sous le coup
merci,
de la punition.
Merci, M. Dédoné
Mouzé. Pour vous en rendre compte, les journalistes ne sont pas aussi au-dessus de la loi. Donc,
merci. Merci, professeur Rigobert Munkeni. Je rappelle que vous êtes professeur au département de l'information dans plusieurs universités du pays. Votre réaction par rapport à l'institution de cette journée internationale pour la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes.
Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup de m'avoir associé à l'émission. La journée internationale contre la liberté, contre les crimes commis sur les journalistes est une bonne journée parce que ça vient résoudre un problème, ça vient commémorer et donner de l'importance à un travail. Vous savez, quand on est formateur et que l'on forme des gens dont on sait que dans peut-être quelques années, le métier pour lequel ils sont formés risque de les amener à la mort, ça fait triste. On se demande s'il faut continuer à les former. Et donc, si quelque part, il y a des journées pareilles pour commémorer ce métier-là, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose aussi s'il y a des organisations comme GED qui sont toujours là pour défendre le métier de journaliste et pour rappeler que ces journalistes-là courent chaque jour vers la mort. Et qu'il faut absolument que l'État, ceux qui organisent le métier et ceux qui organisent le pays puissent prendre des dispositions pour que ces journalistes-là assument leur rôle comme il faut. Le problème qui se pose souvent dans le métier de journaliste, c'est qu'il y a quelque part comme une sorte de mésentente entre le métier tel qu'il est exercé et ceux pour qui on exerce ce métier-là, ceux qui sont concernés par l'exercice de ce métier-là, en l'occurrence les gouvernants. Les gouvernants, souvent, voient à travers le journaliste un ennemi, alors que le journaliste vient pour rendre compte des faits de la société. Et lorsqu'il rend compte des faits de la société, forcément, il doit chercher les acteurs qui sont responsables de ce qui se passe dans la société. Autant ceux qui sont victimes, mais également ceux qui sont chargés de réparer les faits qui rendent les autres victimes. Et souvent, ce sont les gouvernants qui sont considérés comme ceux qui doivent venir mettre de l'ordre. Et lorsqu'on fait appel à eux, c'est ce qu'on peut appeler la reddition de comptes, lorsqu'on leur demande de venir montrer que là où il y a des faits qui ne sont pas des faits, qui sont favorables, par exemple, à la population, et qu'ils ont la responsabilité de rectifier le tir, c'est en ce moment-là, souvent, que le problème se pose et que les journalistes ont en face d'eux des personnes qui généralement, ne veulent pas qu'ils parlent. Et donc, on en arrive souvent à des attaques du genre la disparition des journalistes ou les arrestations.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, vous êtes...
Théoriquement parlant, les journalistes commettent parfois aussi des erreurs. Parce que s'il y a des rapages, il y en a du côté de ceux qui gouvernent éventuellement et qui arrêtent les journalistes. Et il y a également des rapages du côté des journalistes qui parfois dépassent les principes éthiques et déontologiques. On leur rappelle souvent ça lorsqu'on les forme. Mais parfois, ils sont dans des situations où ces principes-là ne peuvent pas agir parce que soit ils n'accèdent pas facilement à l'information et donc ils sont obligés de tâtonner et quand ils tâtonnent, parfois ils vont au-delà des faits et quand ils vont au-delà des faits, eh ben, ce qui tombe sur eux, c'est des arrestations et parfois on va jusqu'à
professeur,
au-delà.
Professeur, vous avez analysé ces faits par le fait que il y a malentendu souvent entre les journalistes et les dirigeants politiques. pourquoi ces malentendus? Le journaliste est en train de faire son travail, il est en train de publier, n'est-ce pas, les informations sur les événements qui se produisent dans la société. Et cela veut dire que l'homme politique, dans ses actions, dans son comportement quotidien, il y a des choses qu'il veut cacher, n'est-ce pas, à la société, à l'opinion. C'est pourquoi il semble être mécontent lorsque le journaliste met sous la place publique certaines choses, c'est ça?
Oui, mais là, il faut nuancer un petit peu. En fait, il y a un problème d'accès à l'information. Lorsque le journaliste accède facilement à l'information, ben, s'il est fait, il raconte les faits, il rend compte des faits comme il faut. Mais lorsqu'il a des difficultés pour accéder à l'information, c'est là où, parfois, il y a des techniques journalistiques qui lui permettent de faire des projections. Et souvent, quand il fait ces projections-là, il peut aller jusqu'au dérapage. Ça, c'est les dérapages du côté du journaliste. Mais il y a aussi des dérapages du côté de l'homme politique ou du gouvernant, celui qui est à la gestion du pays. Celui-là, lorsqu'il ne donne pas la bonne information, il pousse quelque part le journaliste à la faute. Et quand le journaliste commet des erreurs de dérapage, forcément, il vient pour l'arrêter ou il vient pour l'incriminer éventuellement ou le mettre en prison. C'est là où je crois qu'on ne s'entend pas et c'est une bonne chose qu'on puisse réfléchir un peu sur le droit à l'information parce que c'est le problème fondamental, c'est le droit à l'information, le droit d'accès à l'information. Si ce droit-là est garanti aux journalistes, je crois que tout le monde sera d'accord sur les faits que le journaliste pourra mettre sur la place publique. En ce moment-là, on peut le condamner valablement lorsqu'il dépasse les faits, alors qu'il a accédé à l'information. Mais tant qu'il n'a pas la possibilité d'accéder à toute l'information, les dérapages sont très vite arrivés.
Oui, on rappelle ici que récemment, le Sénat a adopté une loi sur l'accès à l'information. Professeur Moukeni, au moment où l'on institue cette journée, l'on se rappelle que le procès organisé suite à l'assassinat de nos confrères, notamment Serge Maheshe, Didas Namujimbo, Bapou Amwamba, M. Frank Ngike, bon, il y avait au moins une douzaine de journalistes qui avaient été tués. On se rappelle que les procès qui ont été organisés, n'est-ce pas, n'ont jamais abouti. Il y a des ans de cela que RFI a perdu deux de ses journalistes, Justin Dupont et Claude Verlon, qui avaient été assassinés au Mali. Et des ans après, l'enquête n'avance toujours pas. Comment vous expliquez cela? D'un côté, les procès sont organisés, mais ne satisfont pas. De l'autre, les enquêtes sont menées, mais elles n'aboutissent pas.
Je crois que ce type d'enquête dans nos pays, je ne sais pas si on aboutira à quoi que ce soit, parce que déjà, pour mener une enquête si difficile à mener, il faut avoir les moyens de les mener. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on pourra aboutir à des enquêtes pareilles, parce que déjà, le journaliste, quand il veut accéder à l'information, il a du mal à accéder à l'information. Je vois très mal comment, lorsqu'il est il est tué ou lorsqu'il est tracassé, je vois très mal comment et quels sont les moyens dont pourraient disposer les dirigeants pour amener une enquête qui aboutisse. Et je ne sais pas si c'est un manque de volonté, mais quelque part je me dis, je crois que autant les dirigeants, les gouvernants, c'est pas seulement les dirigeants, les gouvernants, même tous ceux qui sont sources d'informations, autant ils ont du mal à donner toute l'information, tant ils auront du mal à faire aboutir une enquête.
Merci.
Avec quels moyens?
Merci, M. Tivis. Tu vois, vous avez réagi au propos de Dieudonné Moïse et du professeur Robert Moukeni, mais avant tout, nous avons une réaction, en fait, une question qui vous est adressée, elle vient de Kananga.
Maître Adrien Ilobakwe Ipero à Kananga, au Kasaï central. Je ne suis pas d'accord avec l'ONG Journaliste en danger lorsqu'elle s'adresse au ministre de la Justice pour suspendre la poursuite des journalistes car j'estime à mon humble avis que j'aide à mis la charrue devant le bœuf car il était souhaitable de commencer par la formation, l'encadrement des journalistes, en suivant le comportement de certains journalistes aux médias, ça laisse à désirer, et répondre favorablement à ces moratoires, c'est une façon d'insécuriser la population sur le plan médiatique.
Monsieur Kivis, tu vois dit, moratoire sur l'arrestation des journalistes.
Bien, écoutez, c'est un combat que nous sommes en train de mener depuis que cette organisation est créée. Nous avons fait de cette question de la dépénalisation des délits de presse notre cheval de bataille. Notre ami qui intervient peut-être a besoin de savoir un peu ce que nous entendons par la dépénalisation des délits de presse. La dépénalisation des délits de presse, ce n'est pas d'instaurer un régime d'impunité pour les journalistes, mais nous disons tout simplement que un journaliste qui commet une faute dans l'exercice de sa fonction, hein, ce qu'on appelle généralement la diffamation ou l'imputation dommageable, quand il est poursuivi pour offense aux autorités, nous disons clairement que on peut le condamner à tout, mais sauf à une peine d'emprisonnement. On peut condamner le journaliste à payer des amendes et tout ça, ou même à le condamner à des peines de prison avec sursis, mais nous considérons que la peine d'emprisonnement pour un journaliste, non seulement elle est disproportionnée parce qu'elle ne permet pas de corriger, supposons qu'un journaliste ait donné une fausse information, ce n'est pas le fait de l'envoyer en prison qui va corriger la fausse information, si c'est un mauvais journaliste, et il y en a effectivement, je suis d'accord qu'il y a des mauvais journalistes, mais l'expérience nous a démontré, ce n'est pas la prison qui transforme le mauvais journaliste en un bon journaliste. Voilà. Et alors, donc c'est un combat que, évidemment, c'est une question de débat entre ceux qui sont pour la dépénalisation et ceux qui ne sont pas contre, mais nous avons suffisamment expliqué le concept. Et nous pensons qu'aujourd'hui, même au niveau politique, il y a une volonté politique qui est exprimée aujourd'hui aussi bien par le gouvernement pour aller dans le sens, effectivement, de la dépénalisation des délits de presse, surtout en cette période. Et donc, le moratoire, je vais simplement dire que nous demandons, puisqu'on attend quand même beaucoup de journalistes, surtout en cette période des élections, les journalistes ont une responsabilité, ont un rôle à jouer pour pouvoir donner des informations à l'opinion sur les candidats et sur les programmes. Le journaliste doit être en mesure de nous dire qui est qui a fait quoi hier, il est capable de faire quoi demain. Si un candidat a été condamné il y a quelques années à des peines de prison parce qu'il avait détourné l'argent, le journaliste a le droit de le dire pour dire que ce type, il a été, c'est un repris de justice. Or, à l'état actuel de la loi, des dispositions de la loi, du code pénal, même s'il donne des preuves, le journaliste donne des preuves de ce que tel individu ou telle personne a été effectivement condamné pour détournement, s'il est poursuivi et que la personne arrive à démontrer que cette information a attenté à son honneur ou à sa crédibilité, le journaliste sera condamné à des peines de prison. C'est tout à fait quelque chose de scandaleux. On ne peut pas en même temps entendre des journalistes qui jouent ce rôle de dénonciateurs de chaînes de garde de la société, en même temps laisser planer sur eux, si ce sont des épées de Damoclès qui peut tomber à tout moment sur sa tête, lorsqu'il dénonce des faits même avérés.
Et alors, où en est-on aujourd'hui avec cette démarche pour obtenir la dépénalisation du délit de la presse?
Bien, écoutez, nous sommes en train de, effectivement, comme j'ai dit, c'est un processus au niveau des organisations professionnelles. Nous sommes déjà très avancés à ce qui concerne les propositions de loi. Nous voulons d'abord réviser la loi actuelle de 96 dans ses dispositions justement qui autorisent les arrestations et les emprisonnements des journalistes. Et j'ai entendu qu'il y avait déjà un projet, une proposition de loi qui était déjà là au niveau de l'Assemblée. Il y a un député d'ailleurs qui a proposé cela, mais ça n'a pas encore été inscrit à l'ordre du jour. Mais j'ai dit, il y a déjà une volonté politique exprimée pour aller dans le sens de la dépénalisation. Non seulement parce que le Premier ministre actuel, dans son premier programme d'action, il allait annoncer qu'il allait faire de cette question une de ses priorités. Ensuite, nous sommes allés aux concertations nationales et je vous informe qu'il y a toute une recommandation de concertation qui appelle effectivement le gouvernement à dépénaliser les délits de presse.
Alors, que répondez-vous au propos du député Didonie Mwenze qui dit qu'il faut comprendre le gouvernement parce que d'un côté, il a l'obligation, le devoir de maintenir l'ordre public et de l'autre, de promouvoir la liberté de la presse.
Ben écoutez, le député Moïse a dit un certain nombre de choses sur lesquelles je voudrais quand même revenir. Je me réjouis d'abord de constater qu'il connaît certaines dispositions presque par cœur, notamment les articles 23 et 24 de la Constitution qui garantissent effectivement la liberté de la presse, la liberté d'expression. Mais dans notre pays, le problème, ce n'est pas les textes. Le problème ne se trouve pas dans les textes. Il y a une grande marge, il y a un fossé énorme entre les textes et la pratique. C'est ce qui justifie tout le nombre, c'est-à-dire les statistiques élevées des violations, des atteintes que nous enregistrons chaque année. Et je vous dois donner les chiffres depuis une dizaine d'années qui démontrent qu'effectivement, dans ce pays, il ne fait pas toujours bon d'être journaliste à cause de, effectivement, toutes ces attaques, toutes ces violations, ces cas d'assassinat et qui font qu'aujourd'hui, je vous informe, notre pays se classe à la 150e place sur 180 pays du monde au classement mondial de la liberté de la presse. Dans le rapport des Reporters sans frontières, je crois que ce n'est pas une place qui est tout à fait honorable pour notre pays qui s'appelle République démocratique.
Merci, Monsieur Kivis Kivuadi. Honorable Yedoné Moïse, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu au sud de Kivu.
Honorable de Bukavu au sud de Kivu. Théoriquement, c'est une bonne chose de célébrer la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes partout au monde. Néanmoins, à y regarder de près, dans les faits, je ne pense pas que dans mon pays où la démocratie et l'exercice des droits de l'homme sont encore chancelants, l'on soit réellement disposé à mettre fin à cette impunité des crimes en faveur des journalistes tant que ces derniers ne s'aligneront jamais sur les idéologies de ceux qui tiennent les rênes du pouvoir. Faut-il que la vérité soit recherchée par tous?
Oui, honorable Dylan Moïse.
Je salue le point de vue de votre auditeur, de
Robert Baumé.
Mais je pense que c'est difficile de confirmer qu'on ne mettra pas fin à l'impunité lorsque les journalistes ne veulent pas se rallier à l'opinion de ceux qui gouvernent. Non, je ne crois pas que ça soit comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'impunité ne doit pas être érigé en système, mais aussi que les journalistes doivent savoir que lorsqu'ils accomplissent leurs prestations, il y a les règles et les lois du pays qui définissent plus ou moins les marges de manœuvre, même les limites qu'ils ne peuvent pas franchir. J'apprécie bien la reconnaissance de Monsieur le Président des GED, de l'ONG GED, quand il affirme qu'il y a une volonté politique. Moi, j'apprécie, c'est une bonne attitude. Réellement, il y a une volonté politique de pouvoir préserver et garantir les libertés de la presse, toutes les libertés même d'opinion. Mais je voudrais qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas simplement de garantir la liberté de presse, mais aussi, comme je l'ai dit, il est question que eux qui sont responsables des corporations de journalistes comme GED, qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas simplement plaider pour que les journalistes ne soient pas en danger, mais ils doivent réfléchir un peu plus au-delà pour savoir pourquoi les membres de leur corporation, les journalistes, sont toujours en danger. Est-ce que c'est vraiment puisque on en veut à ces journalistes ou c'est peut-être puisque la prestation ne suit pas les normes reconnues dans la société, dans la République, qui font qu'à un certain moment, ça pose problème. Et j'ai entendu le professeur parler de malentendus entre gouvernants et journalistes. Bon, c'est vrai, s'il peut y avoir des malentendus, ce n'est pas simplement du côté des gouvernants. Ça peut être aussi du côté des journalistes. Écoutez, il a soulevé un cas important. Imaginez-vous que dans ce pays et dans cette ville, qu'il puisse exister des maisons de presse de manière notoire reconnue de l'opposition et reconnue de la mouvance présidentielle ou du pouvoir. Vous comprenez déjà que ça met les journalistes dans une position difficile de pouvoir faire leurs prestations convenablement.
Merci.
Et un journaliste qui se retrouverait dans une maison de presse d'un opposant. Puisque là, il faudra aussi que les politiques comprennent que nous avons comme politique notre façon de pouvoir nous exprimer et de pouvoir faire de la politique au lieu d'utiliser les maisons de presse.
Merci.
Parce qu'à ce moment-là, ce sont les journalistes qui sont instrumentalisés, qui parlent au nom des opposants ou au nom des membres du pouvoir ou de la mouvance présidentielle en leur lieu et place. Et ça pose problème puisqu'à ce moment-là, ils tombent réellement sous le coup de la loi par le fait qu'ils veulent exprimer en tant que journalistes les opinions de politique, c'est-à-dire des opérateurs politiques qui sont actifs.
Merci. Donc, Oui, professeur Mukeni, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Lubumbashi.
Car je m'appelle Dano depuis Lubumbashi. Il est regrettable de constater qu'ici en RDC, l'ensemble a négligé cette profession pourtant noble. En fait, il faut reconnaître que les journalistes contribuent énormément au processus de la paix dans notre pays, avec beaucoup de sacrifices à l'état de nos vaillants soldats. Et donc, j'estime que l'État devrait considérer avec toute impartialité la presse dans son ensemble comme partenaire d'État pour le développement durable de notre pays. Comme l'avait dit Martin Kobler, les gens agissent lorsqu'ils sont informés.
Oui, les pouvoirs devraient considérer la presse comme son partenaire pour le développement du pays. Professeur Mukeni, que faut-il à votre avis pour mettre effectivement fin à l'impunité des crimes contre les journalistes en RDC?
Je crois que l'auditeur qui vient de parler tantôt a tout à fait raison. Les journalistes sont des véritables partenaires, non pas seulement de l'État, mais même des partenaires de la démocratie. Sous d'autres cieux, on les appelle les chiens de garde de la démocratie. Un chien, qu'est-ce qu'il fait? Il aboie. Parfois, il aboie un peu plus fort. Mais est-ce que on le tue pour cela? Non. Parce que le chien est là pour faire le gardien de la démocratie. Ce que nous devons faire, je crois que nous tous, gouvernants, enseignants, journalistes et même population, nous devons commencer à faire de la démocratie avec les journalistes. Savoir que le journaliste est là, malgré les dérapages, mais que le journaliste est très important pour que notre démocratie puisse marcher, parce que c'est lui qui va découvrir les faits, c'est lui qui met les faits à la disposition de tout le monde, c'est lui à la limite qui convoque entre guillemets ceux qui doivent rendre compte de ces faits-là. Et si nous n'avons plus ces journalistes-là parce que quelque part on les tue, quelque part on les arrête, mais notre démocratie va être tout à fait bloquée. Donc nous devons faire avec. Peut-être avec, pour le moment, avec un certain nombre de difficultés. Mais si quelque part on installe petit à petit une société avec les journalistes, une société démocratique par la liberté de l'expression, je crois que d'ici quelques années, nous pourrons avoir un journalisme tout à fait responsable qui ferait son travail comme il faut, en respectant les lois et en évitant le plus possible les dérapages. Ce qui bloque ici, c'est justement le fait que le journaliste se sentant brimé, le journaliste se sentant n'ayant pas la facilité d'accéder à l'information, arrive parfois à essayer de faire des suppositions, et ces suppositions-là, souvent, le conduit.
Merci, professeur.
Et il donne l'impression comme s'il faisait très mal son métier.
Merci, professeur. Je considère ça comme votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission. Mais c'est ce que vous avez dit. Votre conclusion, que faut-il pour combattre effectivement l'impunité des crimes contre les journalistes? Vous avez suivi le prof Mukeni qui pense que les journalistes, c'est un partenaire de la démocratie. Il faut faire de la démocratie avec les journalistes.
D'abord, pour revenir rapidement à ce que M. Dieudonné a dit, et nous sommes tout à fait d'accord que dans notre profession, effectivement, il y a à boire et à manger. Il y a des moutons noirs, il m'a dit qu'il y avait des moutons noirs. Mais des moutons noirs, il n'y en a pas que dans la presse. Vous avez des moutons noirs dans tous les secteurs. Vous avez des moutons noirs en politique. Vous avez des moutons noirs dans l'éducation.
Alors,
chez les professeurs.
Pour essayer de combattre cette impunité.
Et donc, on ne peut pas comprendre, essayer de justifier que de toutes les catégories socio-professionnelles de notre pays, seul le métier de journaliste soit le plus périlleux pour ceux qui l'exercent. Alors que partout, on ne compte pas autant d'attaques contre les médias. Donc, nous pensons que la seule remède, c'est effectivement d'avoir dans ce pays une justice juste au service de tout le monde et pas seulement au service des puissants et des forts, de ceux qui ont les moyens.
Merci. Honorable Dieudonné Moïse, que faut-il pour combattre effectivement l'impunité des crimes contre les journalistes?
Pour combattre l'impunité, effectivement, dans ce pays, il faudra que les journalistes s'assument et jouent leur rôle convenablement en tant que journalistes, qu'ils cessent de s'instrumentaliser par des personnes politiques, soit de l'opposition, soit de la majorité.
Merci.
Mais aussi que je n'ai pas lu le contenu de la lettre adressée à Monsieur le ministre, mais je voudrais dire simplement que si l'on doit obtenir le moratoire sur les poursuites contre les journalistes, nous risquons de violer également la loi.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bonne suite au programme sur Radio Okapi.